Geoffrey Dorian, Olivier Dallage.
Il vit aujourd'hui à Paris, mais sa véritable adresse, c'est le monde qu'il ne cesse de parcourir. Pas de retraite pour ce voyageur infatigable qui a représenté son pays, l'Algérie, comme ambassadeur au début de sa carrière et, bien des années plus tard, comme ministre des Affaires étrangères. Entre-temps, il a été secrétaire général adjoint de l'Ligue arabe et plus récemment, émissaire spécial du secrétaire général des Nations Unies en Afrique du Sud lors de la transition après le régime d'apartheid, au Zaïre, au Nigeria, en Haïti, en Afghanistan, en Irak et je sais que j'en oublie. Portrait d'Orient reçoit aujourd'hui Lardin Brahimi. Bonjour Lardin Brahimi.
Bonjour.
La diplomatie, c'est toute votre vie. Vous aviez tout juste une vingtaine d'années, 22 ans je crois, quand le FLN vous a envoyé en Indonésie comme représentant pour l'Asie du Sud-Est. On est alors en 56 et vous rencontrez les grands de l'époque, ceux qui vont fonder le mouvement des non-alignés, Sukarno, Nehru, Tito, Nasser. Ça doit être assez intimidant pour un jeune homme de 22 ans qui commence tout juste sa carrière diplomatique.
Ça devait être intimidant, mais vous savez, l'arrogance de la jeunesse aidant, je ne me souviens pas que j'ai été vraiment intimidé. Ce dont je me rends compte maintenant, c'est que, avec un certain embarras, c'est que je ne connaissais absolument rien, à rien. Et j'avais la foi du charbonnier et aussi... l'inconscience de la jeunesse.
En tout cas,
je trouvais que c'était tout à fait normal d'aller bavarder avec Sukarno.
En tout cas, vous parlez en indonésien parce que je crois savoir que vous avez appris l'indonésien.
Oui. Je parlais plutôt bien à l'époque, mais ça fait longtemps. J'ai oublié un peu maintenant.
Et donc votre mission, parce que l'Algérie n'est pas encore indépendante, vous représentez le FLN, qui est un mouvement de libération, c'est de faire exister la future Algérie sur la carte diplomatique.
Voilà. C'était de réunir, si vous voulez, ou plutôt mobiliser soutien populaire, soutien officiel des gouvernements d'Asie, et, comme vous dites, faire déjà exister l'Algérie sur la carte internationale.
Objectivement, c'était très difficile ou il y avait un courant de sympathie qui faisait que vous étiez de toute façon bien accueilli auprès de vos interlocuteurs?
En Indonésie en particulier, on était très très bien accueilli. Ailleurs, dans l'Asie du Sud-Est, beaucoup moins. En Thaïlande, par exemple, la Thaïlande était le siège de l'un des grands pactes occidentaux, pays très lié à la France et aux États-Unis, on me recevait beaucoup plus discrètement. Ailleurs, c'était inégal, mais en Indonésie, c'était très chaleureux.
Donc l'Algérie devient indépendante en 62, oui. Et peu après, vous êtes nommé ambassadeur en Égypte, l'Égypte de Nasser. Voilà. Nasser qui avait apporté un soutien politique et d'ailleurs financier important au combat du FLN.
Oui.
Bon, l'Algérie est un pays pauvre, un pays qui naît. Vous êtes aussi ambassadeur auprès de la Ligue arabe.
Oui.
Et dans quel état est le monde arabe au moment où vous prenez vos fonctions?
Je crois que c'était un monde en ébullition au Moyen-Orient. L'Afrique du Nord, le Maghreb, les anciennes colonies françaises d'Algérie, Tunisie et Maroc venaient seulement d'obtenir leur indépendance et essayaient de trouver un petit peu le temps juste dans leur relation avec le reste du monde arabe. Mais le Moyen-Orient était en ébullition après Suez et le très très grand prestige acquis par Nasser.
Alors j'allais y venir, c'est vraiment la personnalité qui focalise absolument tout à l'époque dans le monde arabe.
C'était très certainement la personnalité dominante et le thème central c'était l'unité. L'unité arabe semblait inéluctable, nécessaire, indispensable. La seule question était de savoir comment et quand. Et bon, il y a eu beaucoup de maladresse, beaucoup probablement de naïveté, probablement aussi pas mal d'ambition personnelle. Et nous n'étions pas, l'Algérie, si vous voulez, n'était pas partie prenante dans ce mouvement de l'unité.
Pourquoi?
Nous avions besoin de créer un État. Nous avions besoin de penser un peu nos blessures après cette année de guerre et voir aussi un petit peu avec nos voisins de Tunisie et du Maroc qu'est-ce qu'on pourrait faire. Mais nous étions très courtisés et très respecté. L'Algérie était le pays qui avait réussi une libération difficile par le combat. Et on comparait invariablement la Palestine à l'Algérie à l'époque. Et on trouvait que l'Algérie était un bon exemple à suivre.
Et donc vous restez au Caire ambassadeur jusqu'à la fin des années de Nasser ?
Oui, exactement. Et, en réalité, je suis parti 3 mois avant sa mort. Mais j'ai vu Nasser à son firmament, quoi, au plus haut de sa réputation et de son influence.
Mais je l'ai aussi les premiers échecs, par exemple la guerre du Yémen.
La guerre du Yémen n'était pas
la défaite
tellement...
de 67.
C'est surtout la guerre de 67. Voilà. La défaite de 67 qui était une défaite personnelle pour lui qui l'a tué vraiment.
Donc ça n'était pas du cinéma. Quand il a offert sa démission, c'était pas du jeu.
Absolument.
Parce qu'on a beaucoup dit ça.
Oui, absolument. Oui, je sais. Oui, on a dit que c'était du jeu, mais j'étais là. J'ai vu, j'ai entendu son discours. J'ai parlé à l'un de ses conseillers 3 minutes plus tard. Et j'ai entendu le cri spontané de la population dans les bâtiments avoisinants. Et la sortie spontanée, ça ne pouvait pas être autrement. Moi qui ai envoyé un flic dans chaque appartement, ce qui est difficile même pour l'Égypte de l'époque, c'était une réponse spontanée de la population qui disait en réalité... tu ne nous mets pas dans cette situation et tu t'en vas. Tu nous as mis dans cette situation, tu restes pour nous en sortir.
Donc ça peut se lire de deux façons.
Ça se lisait à l'époque exactement de cette manière-là. Oui.
Alors dans les années qui suivent, vous poursuivez votre carrière diplomatique comme conseiller du président algérien, puis comme ambassadeur à Londres.
Oui.
Et puis vous retrouvez la Ligue arabe, cette fois on est en 1984.
Voilà.
Et beaucoup de choses ont changé. Déjà la Ligue arabe n'est plus au Caire, elle est à Tunis.
Oui.
Parce qu'il y a eu un changement essentiel, c'est la signature des accords de paix.
Absolument.
Entre l'Égypte et Israël.
Voilà. Vous savez, ça c'était traumatisant pour tout le monde. J'étais à Londres quand c'est arrivé. Évidemment, l'Égypte s'en est allée toute seule et personne n'a compris, ni accepté, ni pardonné à l'Égypte d'avoir agi de la sorte. Mais la réaction des pays arabes, maintenant quand on regarde en arrière, rompre avec l'Égypte à cette époque-là n'était peut-être pas la chose la plus intelligente que nous ayons fait. Mais c'est arrivé, on a rompu, on a retiré, si vous voulez, la Ligue arabe de l'Égypte et on l'a emmenée à Tunis. Et c'est dans ces conditions que moi je suis devenu secrétaire général adjoint de cette organisation.
Alors, très schématiquement, comme on l'a fait tout à l'heure, un petit portrait du Moyen-Orient à cette époque. Donc, l'Égypte a fait la paix avec Israël. Le Liban est en guerre civile depuis 1975.
Oui.
L'Irak est en guerre contre l'Iran.
Oui.
Et forcément, la Ligue arabe, au milieu de tout ça, est déchirée entre les différents courants du monde arabe.
Oui. Vous savez, la paix séparée que l'Égypte a fait avec Israël a déstabilisé le monde arabe. Que nous le voulions ou non, l'Égypte a un poids spécifique très spécial dans le monde arabe. Même sous Sadate, l'Égypte avait une influence dont il était très difficile de se passer. L'Irak était un pays qui avait fait pas mal de progrès, qui s'était réorganisé, qui se développait très bien. Et on disait à l'époque, vous savez, c'est difficile à imaginer maintenant, mais en 1980-82, on disait qu'il y avait deux pays dans le monde qui étaient prêts à décoller dans le tiers-monde. Ces deux pays étaient l'Irak et l'Algérie. Vous voyez un petit peu comment la prospective n'est pas toujours n'est pas une science exacte.
Beaucoup de gens ont dit que, par exemple, si Saddam Hussein ne s'était pas lancé en 80 dans une guerre contre l'Iran, effectivement,
absolument.
Ça aurait pu arriver.
Absolument.
Mais
absolument.
Il y avait des contingences nationales.
Oui, Saddam, son premier crime, si vous voulez, son premier grand crime, c'était un homme cruel, c'était un homme qui dominait l'Irak et qui menait le pays avec une main de fer. Mais sa grande faute, c'était cette guerre contre l'Iran.
Vous êtes algérien, vous étiez à l'époque représentant de la Ligra, mais vous étiez quand même algérien. On sait que l'Algérie a joué un rôle très important dans les multiples tentatives de médiation entre l'Irak et l'Iran.
Oui.
Est-ce qu'il a été possible à un moment quelconque de rapprocher les points de vue ou c'était une opération vouée à l'échec quoi qu'il arrive?
Vous savez, la grande tentative de l'Algérie, c'était ce fameux voyage du ministre des Affaires étrangères Mohamed Ben Yahya en 1982. Et son avion a été abattu. Donc c'était une tentative mort-née. Nous avions joué un rôle auparavant entre le Shah et Saddam pour régler les problèmes.
Les accords d'Alger en 75.
Les accords d'Alger en 75. Et l'Algérie était l'un des rares pays, peut-être le seul pays arabe, qui avait dit aux Irakiens, c'est une erreur, et qui n'avait pas soutenu l'Irak, qui avait maintenu une attitude de neutralité dans la guerre entre l'Irak et l'Iran.
Il vous en a beaucoup voulu.
Il nous en a beaucoup, beaucoup voulu. Et s'ils sont venus vers nous, c'était parce qu'ils ont vu que les choses ne tournaient pas très bien pour eux. Je crois qu'il faut quand même signaler ce fait que l'Algérie était le seul pays qui avait une attitude très clairement, sinon hostile, du moins très réservée vis-à-vis de cette guerre.
Alors, j'ai évoqué tout à l'heure la guerre du Liban qui a éclaté en 75, oui. Qui a pris fin en 89 avec les accords de Taïf en Arabie Saoudite, les accords de Taïf dont vous avez été l'un des architectes principaux, l'accoucheur en chef, pourrais-je dire. Oui. C'est quoi votre recette pour arriver à mettre fin à un conflit qui oppose des gens aussi variés, aussi différents et où toutes les combinaisons d'alliances et de trahisons ont pu être vérifiées?
Bien, écoutez, vous savez, je crois que c'est Napoléon qui disait qu'il n'avait pas besoin de généraux qui n'ont pas de chance. Hein. Moi, je crois que j'ai eu la chance d'arriver au bon moment. C'est ça le plus grand secret. Il y a eu beaucoup de médiateurs avant moi, certainement plus avertis, plus capables que moi, mais ce n'est pas arrivé au bon moment. Les Libanais n'étaient pas prêts à la paix. Je suis arrivé à un moment où les Libanais étaient fatigués, où, vous savez, ça c'est un problème très important. Le meilleur moment pour faire la paix, c'est quand les partis qui sont en guerre se rendent compte qu'ils ne peuvent pas gagner. Je crois qu'en 1988-89, toutes les factions au Liban se sont rendues compte qu'elles ne pouvaient pas gagner.
Un petit peu comme entre l'Irak et l'Iran.
Un petit peu comme l'Irak et l'Iran, oui. Donc moi je suis arrivé à cette époque-là. Le deuxième secret, si vous voulez, c'est que il faut convaincre tout le monde qu'on est vraiment impartial et qu'on n'a pas de parti pris pour ou contre aucune des parties. Ça, je le dois beaucoup plus à l'Algérie que moi-même. L'Algérie continuait, et je crois qu'elle continue encore aujourd'hui, à être perçue au Moyen-Orient comme un pays qui n'a pas de parti pris pour ou contre qui que ce soit au Moyen-Orient.
Mais pour réconcilier des gens qui étaient aussi opposés, il y a ce dicton qui dit on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Est-ce qu'il faut une formule volontairement ambiguë pour préserver chacun, ou est-ce qu'il faut au contraire être très précis pour éviter les conflits futurs?
Vous savez, ça dépend. Hein. Ça dépend où vous êtes, ça dépend qu'est-ce que vous faites.
Dans le cas du Liban, par exemple.
Dans le cas du Liban, ce qui a facilité le travail, d'abord, c'est ce que je fais toujours. Hein. Moi, j'essaie de m'entourer du soutien, de la participation, des conseils, de tout le monde, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait au Liban. La deuxième chose, c'est que nous avions un tas de projets d'accord qui avait été travaillé, très travaillé.
Donc ça faisait une base.
Oui, on a fait un peu de couper-coller, quoi. Et finalement, ce sont les Libanais. À Taïf, c'est pas moi qui ai fait l'accord. C'est
Créer les conditions.
On a créé les conditions et on a amené là-bas les parlementaires qui étaient encore vivants. C'est eux qui ont fait l'accord, c'est pas moi.
est aujourd'hui consacré à l'Arda Brahimi. L'Arda Brahimi, en 91, votre pays fait à nouveau appel à vous, cette fois comme ministre des Affaires étrangères. Mais vous, le spécialiste des crises internationales, vous êtes pris au cœur de la crise algérienne, puisque le Front islamique du salut va de victoire en victoire. Mmh. Et le 11 janvier 92, entre les deux tours des élections législatives, un groupe de dirigeants, dont vous êtes, décide de suspendre le processus. Alors, à l'extérieur, certains parleront de junte. À l'époque, à tort ou à raison, on ne vous sent pas très à l'aise dans votre fonction et dans le rôle qui est le vôtre dans cette période charnière.
Oui. C'était une période extrêmement, extrêmement difficile. Ce n'était pas le meilleur moment pour être ministre des Affaires étrangères de l'Algérie. Vous savez, cette décision de suspension du processus électoral, jusqu'à présent, je ne sais pas si c'était la bonne décision ou non. C'est sûrement pas une très bonne décision. Est-ce qu'il y en avait une meilleure ? Je n'en sais rien.
Mais à l'époque, vous aviez les mêmes doutes ou pas ?
Oui, comme vous dites, j'étais pas à l'aise. Mais je crois que ce n'est plus un secret maintenant que ce que j'avais dit à l'époque, c'était que nous n'avions pas besoin d'élection à l'époque. Et que si on allait à l'élection, il fallait savoir qu'il y avait une très bonne possibilité que le fils gagne. Or, l'armée avait dit, écrit dans leur journal, nous ne permettrons jamais à une organisation comme celle-ci de prendre le pouvoir. Alors, où est-ce que vous allez ? Bon, on ne m'a pas écouté. Ce n'était pas une bonne décision, puisque ça nous a coûté quand même plus de 100 000 morts à la fin.
Et l'alternative, on ne la connaîtra jamais,
évidemment. L'alternative, on ne la connaîtra jamais. Mais ce n'était pas la meilleure période pour n'importe qui.
Donc vous restez ministre des Affaires étrangères jusqu'en 1993. Mmh. Et là, vous retrouvez ensuite les Nations Unies. Vous allez aligner les missions spéciales à la demande du secrétaire général des Nations Unies. On reviendra, bien entendu, plus tard sur l'Afghanistan et l'Irak. Mais laquelle de toutes ces missions, Haïti, Afrique du Sud, divers endroits en Afrique, Zaïre par exemple, laquelle vous a le plus marqué ?
Indéniablement l'Afrique du Sud. C'était un rêve. C'était magique.
C'est la preuve que quelque chose qui paraît impossible, finalement, finit par arriver.
Oui, et puis aussi, vous avez des miracles tous les jours.
Parce que je rappelle que vous étiez là-bas au moment de la transition, après la fin du régime de l'apartheid.
L'élection, la préparation des élections, l'élection elle-même, l'installation de Mandela, l'adieu à Mandela quand je suis parti et qu'il a eu la gentillesse de me recevoir chez lui. C'était la magie tous les jours. C'était quelque chose qui marchait tout à coup dans un pays où ça n'aurait pas dû marcher. Ça, c'est pas de doute que c'est
Haïti beaucoup plus difficile.
Haïti beaucoup plus difficile, beaucoup plus triste. Un pays maudit des dieux, sans aucune ressource, pauvreté totale et une population profondément divisée entre des gens qui se nomment eux-mêmes l'élite. Toute la prétention qu'ils ont à être une élite, c'est parce qu'ils ont de l'argent et qui traitent le reste de la population comme...
C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, vous ne voyez pas de lueur d'espoir.
Ici, ça va un peu mieux, mais c'est un pays qui est très très difficile, très compliqué.
Comme le Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo.
Oui, le Zaïre, ce n'est pas les ressources qui manquent, au contraire. Si le problème de Haïti, c'est l'absence de ressources, le problème du Zaïre au Congo démocratique aujourd'hui, c'est l'excès de ressources.
Et on se bat pour ces ressources.
Et on se bat à l'intérieur et à l'extérieur pour ces ressources. C'est un pays où les Nations Unies, il ne faut pas oublier, sont engagées depuis 1961-62, pratiquement sont discontinuées sous des formes diverses. Et le pays n'est pas encore sorti.
Un secrétaire général de l'ONU est même mort
Lors
d'une mission d'Agamarsky.
Oui. Hammarskjöld est mort là-bas. Et tous les autres secrétaires généraux se sont bagarrés, si vous voulez, avec ce problème. Et n'oubliez pas que de ces 10 dernières années, vous avez 3 à 4 millions de morts au Zaïre.
Alors, 2001, après les événements du 11 septembre et l'attaque de la coalition qui fait chuter le régime des talibans, vous êtes envoyé par Kofi Annan, secrétaire général de l'ONU, dans un Afghanistan plus divisé que jamais. Oui. Et il s'agit de mettre ensemble tous ces chefs de guerre, ces chefs de tribu pour rebâtir ou bâtir, on ne sait pas très bien, un État afghan.
Oui, je crois qu'il faut rappeler que j'ai eu une première incarnation là-bas de 97 à 99 comme envoyé spécial et que j'ai démissionné en 99 en disant au Conseil de sécurité que je démissionnais parce qu'il n'y avait pas de soutien international à ce que nous essayons de faire.
Et là, vous pensez en 2001 que
en
l'occasion
2001,
est
on pensait
présence.
Qu'on pouvait, si vous voulez, grimper un petit peu sur le dos des Américains pour essayer de faire la paix et de remettre ce pauvre pays sur les rails.
Vous étiez présent dans cette fameuse Loya Jirga, cette assemblée tribale, qui a désigné Hamid Karzai.
Oui.
Mais les reporters sur place ont appris son nom de l'ambassadeur américain avant que la Loya Jirga se prononce.
C'est pas tout à fait exact, vous savez, Hamid Karzai a été nommé à Bonn comme intérimaire.
Dans une première réunion.
Oui, et il n'y avait pas beaucoup de secrets quand même que c'était lui qui allait être nommé. Il y avait une petite tentative de la part de certains grenouilleurs pour essayer d'encourager le vieux roi à se présenter contre Hamid Karzai.
Zahir Shah. Qui veillait en exil à Rome.
Voilà, oui. Et c'est ça que l'ambassadeur américain a annoncé, que Zahir Shah se retirait. Mais vous savez, les Américains et la presse, c'est pas comme le reste du monde.
Bon, mais pour revenir à l'Afghanistan, est-ce que ces chefs de guerre qui ont multiplié les retournements d'alliances, c'est pas tout à fait comme le Liban, mais ça doit quand même vous rappeler quelques souvenirs en termes de difficultés, etc.
C'est beaucoup plus comme le Yémen. Vous savez, c'est des tribus, c'est une société tribale un petit peu.
Mais l'idée de les mettre ensemble pour qu'ils s'entendent, c'est une chimère ou ça peut être une réalité?
Ce n'est ni une chimère ni une réalité, c'est une nécessité.
On n'y est pas encore arrivé.
On n'y est pas encore arrivé parce que nous avons fait beaucoup d'erreurs et nous avons raté plusieurs tournants importants, notamment en 2002, nous aurions dû tendre la main aux talibans. En 2002, les talibans avaient été battus, dispersés.
Et donc là, aujourd'hui, vous êtes d'accord avec la stratégie qui consiste à essayer de trouver ce qu'on appelle les talibans modérés?
Non, pas tout à fait. Vous savez, choisir ses interlocuteurs,
c'est pas possible.
C'est pas comme ça que ça se passe.
Alors l'Irak, c'est la dernière grande mission après l'invasion anglo-américaine, la chute de Saddam Hussein. Vous êtes à nouveau envoyé spécial dans cette zone. Vous tentez à nouveau de mettre ensemble les parties divisées. Et officiellement, vous êtes chargé de préparer les élections qui doivent se tenir au début de
l'année. C'est les Nations Unies qui étaient. Moi, j'étais chargé d'aider à former le gouvernement de transition.
Et George Bush, qui déclare à la télévision que c'est à vous de choisir le futur Premier ministre, avec un grand sourire, en fait, est en train de vous doubler, puisque c'est Paul Bremer, l'administrateur américain, qui va choisir Iyad Alawi. Et pour tous ceux qui vous ont vu à la télévision ce jour-là, vous aviez l'air complètement défait.
J'avais probablement l'air défait, mais ce n'est pas parce que Bremer a choisi Alawi. Ça, c'est un peu plus compliqué, on en parlera une autre fois. Ce qui me préoccupait, c'était que je suis parti en Irak à contre-cœur. C'était pas une mission agréable. J'étais contre la guerre, je l'avais dit publiquement, et je ne voulais pas aller là-bas. C'est les Américains qui ont fait des pressions terribles et qui sont venus à New York pour nous jurer, à Kofi Annan et à moi-même, qu'ils avaient besoin des Nations Unies, qu'ils ne pourraient pas faire cette transition sans les Nations Unies, et que cette transition, vous savez qu'ils avaient, quelques mois auparavant, ils étaient allés au Conseil de sécurité pour demander, et ils ont obtenu, à se faire reconnaître comme pays occupant. Avant la fin de l'année, grand retournement de la situation, ils disent on veut reconnaître la souveraineté de l'Irak, on veut mettre fin à l'occupation. Et je crois que nous avions cru qu'ils voulaient effectivement sortir et mettre fin à leur occupation. C'est pour ça que je suis allé à contre-cœur. Toute la mission était pénible. Bremer n'a pas choisi Alawi, c'était quelqu'un qu'ils aimaient bien. Mais il y avait une situation très très compliquée, très très difficile. Trouver quelqu'un qui soit acceptable à la fois aux chiites majoritaires, aux Américains, n'était pas une chose facile. Et ma solution, c'était un gouvernement de technocrates. Et maintenant, je me dis que j'aurais dû partir lorsque cette idée a été refusée.
Mais quand vous leur parliez, ils étaient d'accord avec vous ou ils vous ont laissé entendre qu'ils avaient une autre idée en tête ? Les Américains.
Je crois qu'ils ont travaillé avec moi d'une manière raisonnablement honnête.
Alors, Larda Brahimi, l'émission se termine. En regardant dans le rétroviseur tout ce dont nous avons parlé, quelle est votre plus grande satisfaction de ce que vous avez pu faire ?
Ma plus grande satisfaction, c'est d'avoir été en Afrique du Sud, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. La plus grande satisfaction de ce que j'ai fait moi-même, c'est probablement le Liban.
Et votre plus grand regret ?
L'Irak.
Merci infiniment, Larda Brahimi, d'avoir accepté de participer à Portrait d'Orient.
Merci beaucoup à vous. Merci bien.